L'heure vous est offerte par le garage Balcon du Jura, votre nouvelle agence Suzuki à Saint-Trois.
Il est 9h sur Radio Carnaval. Ah, j'irais bien me tirer un deuxième petit café, moi.
Chérie, je t'ai déjà dit que la menuiserie, c'était pas ton fort. La menuiserie Eric Rusticelli est à ton service pour tous travaux de menuiserie intérieur et extérieur. Charpente, couverture, escalier, agencement de cuisine, fenêtres, bois métal, bois, PVC et volets alu. Eric Rusticelli, rue de l'Industrie 21 à Sainte-Croix. Pour tout renseignement, 024 454 20 35.
ProNeige Sport à But. Le magasin de sport de votre région. Spécialiste du ski, de rando et de location, retrouvez toutes nos offres sur notre site internet proneige-sport.ch. ProNeige Sport à But vous souhaite à tous un bon carnaval.
Hey Mélo, où vas-tu en ce dimanche 12 février à 9h?
Bah, au concert des Googans, ça commence à 9h sous la cantine.
Sérieux? Mais y'a qui comme Googan?
Elboxon, bien entendu, mais la Lustiklik d'Alsace aussi, la New Guns d'Yverdon et bien d'autres. Dépêche-toi!
Ça a l'air génial! J'arrive!
Bon les amis, après qu'on ait fêté ce rudement beau week-end, il nous reste une dernière chose à faire. Mais oui, vous le savez tous, le bal des Robustes, dimanche soir à 18h30 sous la cantine.
Eh ben, bonjour à tous les Saint-Cris et tous les gens du Balcon du Jura, du Nord-Vaudois qui nous écoutent. Bienvenue dans cette émission Torgal des Poussières. Et je voudrais remercier mon parrain qui est le karting de Vitebœuf. Donc si vous avez de temps en temps le week-end, vous ne savez pas quoi faire, allez faire un petit tour au karting de Vitebœuf. Donc, bonjour Sylvaine.
Bonjour Michael.
Et j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui mon ami Jacques Dufour, brocanteur, ancien cycliste, semi-professionnel. Alors il est là, Jacques, mon ami Jacques, on va développer avec lui. Il est là pour nous parler de son parcours pro, de sa passion qui est la brocante. Alors on va commencer cette émission avec Jacques, je te laisse te présenter. Jacques, ton prénom c'est bon, d'où tu viens, qui tu es. Donc je te laisse la parole.
Bonjour Sylvain, bonjour Michael. J'ai un parcours quelque peu atypique professionnel, ayant fait beaucoup de choses différentes dans ma vie, ayant eu la chance de vivre de mon sport du cyclisme pendant 6 à 7 ans. C'était un peu dans une autre vie, hein. On parle des années 88 à 94. Et suite à quoi, j'ai fait différents métiers, en passant chez Securitas, en vendant des appareils de sport ensuite, et pour continuer dans le pharma pendant 18 ans. Et jusqu'à que le virus de la brocante, qui était là depuis de nombreuses années, me rattrape.
Se développe.
Voilà. Une petite attente que mes enfants soient indépendants, et j'ai pris la décision de me lancer en tant qu'indépendant pour organiser les brocantes et mon propre commerce qui est à Arnay-sur-Orbe.
Propre commerce de ?
De brocante.
Ah, de brocante, carrément.
Ah ouais. Carrément.
Ah, carrément. Grand luxe, hein ?
Ah, tu vois, Sylvain, comme quoi les objets, il faut les faire revivre et tout ça, c'est bien. Donc Jacques, si j'ai bien compris, tu es basé à Arnay-sur-Orbe. Tu as un magasin, un dépôt.
Voilà, Arnay-sur-Orbe, connu pour ses 8 ou 9 vignerons, mais qui bientôt sera connu.
On les salue, du reste.
Mais connu aussi bientôt, non, pour la brocante, effectivement. J'ai des voisins qui sont brasseurs aussi. Donc Sainte-Croix était très connu pour sa brasserie, et Arnay-sur-Orbe va suivre aussi. Donc oui, tout à fait, 240 mètres carrés de magasins et de dépôts, avec un petit atelier où je mets en action mon créneau, qui est de perpétuer l'unique. C'est-à-dire que je prends des meubles, pas n'importe lesquels, que je vais chiner un peu partout, et que j'essaie de remettre en état pour leur donner une seconde vie.
Ça, c'est super important, surtout de nos jours, hein, Jacques, de donner une seconde vie aux objets.
Alors, c'est un peu la mode, effectivement, depuis 2 ans, on dira. Le recyclage, on en parle beaucoup, mais pour moi, ça a été déjà depuis une bonne quinzaine d'années où j'avais, en chinant, j'avais ce concept de refaire mon appartement entier avec des meubles que j'ai retapés pour donner mon propre style, en fait.
Ok, donc t'es plutôt dans ton style à toi, ou dans une âme plutôt écologique, surtout à l'heure actuelle, vu qu'on parle pas mal d'écologie, mais je pense pas, à mon avis, t'as plutôt une âme de redonner un bel aspect à un objet, c'est plutôt ça, ou bien...
Oui, alors sincèrement, au début, ma démarche n'est pas du tout partie d'un point de vue écologique. C'était juste que vous avez des meubles, on construisait des meubles il y a 50, 100 ans qui étaient faits pour durer plusieurs générations.
Oui.
Et de voir ces meubles, ou bien des meubles industriels, quand vous avez des industries, des usines qui ferment, de voir ces meubles partir aux déchets, à la casse, et notamment des pieds de machines-outils, ou des choses qui sont absolument superbes. Mm-hmm. Ma démarche était de faire revivre ce mobilier avec une touche, justement, design industriel, et de poursuivre, justement, la vie d'objets, parce qu'elles peuvent durer encore 150, 200 ans encore. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. On n'est plus dans ces objets au bout de 2 déménagements où on peut les mettre à la poubelle. Non, pas du tout.
Et puis, Jacques, à mon avis, tu es optimiste. Je pense que déjà, le premier déménagement, il n'y a plus rien.
Ouais, ça dépend. On va pas citer, mais il y a des magasins qui sont un petit peu plus solides que d'autres. Hein, Sylvain ?
Absolument.
Voilà.
Donc, Jacques, ça veut dire que dans ton atelier, tu stockes et puis tu rénoves toi-même, et tu as tout ce qu'il faut pour tout remettre sur le marché, on dira.
Alors, j'ai à peu près tout ce qu'il faut, sauf que mes journées n'ont que 24 heures, comme tout le monde. Donc, en fait, il manque...
Comment ça?
Il manque à peu près 72 heures par jour. Ce qui veut dire, j'ai lancé Mémoire d'une malle, donc Arnay-sur-Orbe, il y a 2 ans maintenant, donc en plein Covid.
Donc ça, Jacques, c'est ton havre de paix, Arnay-sur-Orbe, voilà. Mémoire d'une malle.
Exactement.
Mémoire de malle ou mémoire d'une malle,
pardon. Mémoire d'une malle. Mémoire d'une malle.
Trop bien.
Tout à fait. Pas des malles, hein, Sylvain. D'une malle.
Non, ça, l'histoire part d'il y a une quinzaine d'années où je reprenais des anciennes malles, effectivement. Je les retapais, mais je les mettais en position verticale et je les transformais. Je n'ai rien inventé parce que d'autres l'ont fait avant moi. Je les transformais en barres. Donc, je okay. mettais ce qu'il faut pour mettre les bouteilles et les verres. Et comme je suis un passionné de bande dessinée aussi, un de mes auteurs préférés, Servet, a fait une série qui était Mémoire des arbres. Mm-hmm. Et un petit brainstorming, souvent je fais ça avec mes enfants, qui sont adultes, hein, petit brainstorming pour trouver le nom de la société et de Mémoire des arbres de Servet, qui est un auteur belge. Je suis passé à Mémoire d'une malle puisque je rénovais ces malles. Donc voilà, pour revenir à votre première question, j'ai tout ce qu'il faut, sauf les heures, donc ce qui veut dire que depuis maintenant une année, vu que je connais très bien le milieu de la brocante, il y a des artisans exceptionnels qui font ça beaucoup mieux que moi, donc je dois faire un choix. Si je pars du principe que s'ils font en 20 minutes mieux quelque chose que moi, je passerai 3 heures de faire, je sous-traite et je collabore avec eux.
Absolument, ok. Donc, tu as tes bonnes adresses, tu as tes contacts qui te font le travail, qui te sous-traitent. Et puis, comme ça, toi, tu peux t'occuper des 70 heures restantes.
Donc, Jacques, tu bosses avec tes sous-traites, enfin, sous-traites entre guillemets. Tu travailles avec des gens de la région, des gens du canton de Vaud, des gens de la Romandie, des gens de France. Tu procèdes comment dans la rénovation, puis après aussi dans la Chine, parce que je sais que tu es un grand chineur et puis tu parcours énormément de kilomètres, tu as plein de cordes à ton arc, alors je te laisse nous en dire un petit peu plus, si ce n'est pas un secret. Hein.
Non, alors pour moi, il n'y a rien de secret. Les bons coins à champignons, je les dis volontiers à des gens qui ont le même état d'esprit que moi.
Parce qu'en plus, tu vas aux champignons.
Non, les bons coins à champignons, c'est les bons coins de Chine. Et pour trouver du bon matériel.
Il y a des termes, hein, Sylvain, dans ce jargon-là.
Je suis assez brocante, je dirais.
Ouais, et puis Jacques, c'est pas un brocanteur rincé, hein, en général.
Non,
voilà.
Non. Heureusement, ou comme vous voulez, hein, mes enfants, ma famille dirait... ça suffit, maman. Mais j'adore. Je suis vraiment une fan.
Alors, je vous convie à venir une des multiples organisations que je fais. On en parlera sans doute plus tard avec ma deuxième société. Mais pour revenir à ce que Michael me demandait, oui, je vais chiner principalement en France, en Haute-Savoie et en Belgique. D'accord. Et je pense que la Suisse romande en elle-même n'est pas un pays de brocante. Il y a beaucoup à développer et c'est ce qui me botte. Le nord de la France, la Belgique, est vraiment la capitale, je dirais, mondiale de la brocante. Vous trouvez des choses exceptionnelles. Chaque week-end, vous avez des brocantes merveilleuses. Et donc maintenant, j'ai mes bonnes adresses, c'est-à-dire d'autres brocanteurs en Belgique ou en France, avec lesquels je collabore très bien. Et dans la rénovation ou la création, parce qu'en fait, vous pouvez prendre du vieux bois et avec ça, créer des meubles en mélangeant avec le métal. D'adresse en adresse, vous rencontrez des gens. Il y a un côté humain à la brocante qui est fabuleux aussi.
Tout à fait, c'est juste, ouais.
Et avec les mois, les années, vous faites des contacts fabuleux. Et j'ai eu la chance de rencontrer Magali et Gauthier qui se sont lancés un peu en même temps que moi dans des créations de meubles qui sont magnifiques, qui s'appellent Gasca. Vous pouvez aller sur leur site, si j'ai le droit de faire un peu de pub.
Oui, bien sûr.
www.gasca.fr, G-A-S-K-A. Et ils sont jeunes, ils sont résilients, comme moi. Ça, je crois que c'est très important pour un esprit d'entrepreneur qui est vraiment développé. Parce que ce n'est pas facile. Il ne faut pas croire que si on crée ou qu'on a fait un très beau meuble, que ça va se vendre tout de suite. Mmh. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut être résilient par rapport aux échecs. Et cette collaboration qu'on a, pour moi, c'est une grande motivation et un grand créneau qui est de la brocante, je dirais, à valeur ajoutée. Parce que vous prenez du vieux bois, vous prenez du métal, et il faut être designer, il faut être charpentier, il faut être dessinateur. Et leurs forces et mes forces font que on va arriver à développer ces meubles Gasca et à faire connaître ce mobilier dans toute l'Europe, j'espère.
J'ai juste une petite question. Ces meubles Gasca, moi j'ai participé à la brocante de Bulle en tant que exposant, donc on vous en dira deux petits mots tout à l'heure, un petit peu plus avec Jacques. Donc c'est ces magnifiques meubles que tu avais sur ton stand, on est bien d'accord?
Absolument, oui, tout à fait.
Alors je vous invite vraiment à aller découvrir ce site, c'est vraiment des meubles magnifiques.
Oh, super.
Merci.
Jacques, j'ai une autre question par rapport à justement, tu dis que la Suisse, tout est à développer au niveau de pour aller chiner, pour trouver des bons coins à champignons. Pourquoi spécifiquement la France ou la Belgique? Qu'est-ce qui fait que c'est des endroits en particulier qui sont riches à ce point?
Je pense que c'est simplement à la base, le pouvoir d'achat, la débrouillardise. Si on parle du nord de la France, la région de Lens, de Lille ou Belgique, Charleroi, c'est des régions qui sont très pauvres. Il y a les mines de charbon. Mm-hmm. Donc c'est des gens qui ont dû apprendre la débrouille. Et c'est des gens qui ne rechignent pas devant un meuble. Pour retaper, pour faire avec ce qu'on a. Mm-hmm. Et je pense qu'à la base, c'est ça. Je pense que c'est le. Je ne veux pas dire le petit peuple, mais c'est un peu du Émile Zola quand même. Ça part de là. En Suisse, peut-être qu'on a ce côté un peu privilégié, où on n'a pas eu besoin d'aller gratter pour se meubler. Mm-hmm. Je pense, c'est ma propre théorie, mais je vois ça. Et dans la mentalité des gens, ils gardent les choses, et il y a même des gens de l'Est qui viennent acheter en Belgique.
Ah, ouais, okay. Mm-hmm. Et puis j'imagine qu'ils sont aussi peut-être un peu plus dans la transmission, au niveau de ce qu'on transmet dans les familles. Il y a des meubles qui ont des histoires et qui ont des valeurs et qu'ils veulent absolument garder et retaper, en fait, pour pouvoir les transmettre.
Certainement aussi. Il y a du mobilier qui va bien marcher en Belgique, des grosses armoires, même des lits qui ne vont plus du tout fonctionner en Suisse.
Ouais, donc c'est vraiment cet esprit. Jacques, j'ai juste une petite question. J'ai toujours entendu parler de cette magnifique brocante de Lille. Est-ce que tu as déjà été à Lille faire cette brocante en tant qu'acheteur?
Alors, la braderie de Lille.
La braderie, pardon.
La braderie de Lille, effectivement, c'est quelque chose d'assez énorme. Je ne suis pas fan parce qu'il y a un mélange de vide-grenier et de brocante. Alors, je ne veux pas critiquer les vides-greniers.
Excuse-moi, je te coupe, oui. Jacques. Effectivement, pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un vide-grenier et une brocante? Parce que moi, ça m'intéresse.
Voilà, alors ça va peut-être être la lutte de ma vie d'expliquer aux gens, parce que le terme brocante, c'est un terme générique. Donc, le vide-grenier, il en faut. C'est super bien, je suis pour. C'est vraiment ce que vous avez, des objets, je dirais, contemporains. Il peut y avoir de l'électronique, il peut y avoir du mobilier, mais courant, qui date des années 2010 et autres. La brocante, on sera plus... On va donner, je pense, une date jusqu'en 1908. Donc 40-50 ans de recul. Avec que ce soit des bijoux, que ce soit des montres, que ce soit des meubles, voire un peu des vêtements, on sera dans la brocante. Le vide-grenier, ça sera beaucoup plus familial, mais moi, je suis venu à la brocante via le vide-grenier. C'est une histoire familiale. Ma fille vendait ses jouets dans des vide-greniers, Et de là, je me suis intéressé, j'ai commencé à chiner. Donc c'est un bon début pour choper le virus de la brocante, de commencer par des vigneronniers, effectivement.
Ça fait combien d'années, Jacques, que tu as chopé ce virus, là ?
Alors, ma fille a 28 ans, elle a commencé à vendre ses jouets, elle avait 4 ans, donc je pense que ça fait 24 ans environ, quelque chose comme ça.
Ouais, ça fait fin des années, non, non, début des années 2000, quoi.
Voilà, tout à fait.
Ok, magnifique, magnifique. Sylvain, as-tu encore quelques questions avant que je vous passe un petit morceau de musique, ou bien on se passe un petit truc
Oui, alors des questions, alors elles arrivent à foison.
Ouais, ouais, à foison.
Par contre, je vais profiter pendant que tu programmes un autre vinyle. En fait, moi, j'ai juste un petit avis de recherche à lancer, en fait. Depuis ce matin, toute l'équipe du carnaval déplore une perte. Donc, ceux qui vont retrouver ce fameux panneau de 3,50 m de haut, de 1,25 m de large, bleu et qui pèse en tout cas au moins 40 kg, seront récompensés. On attend à la radio. Alors, la récompense, ce sera éventuellement, on ne va pas dire que ce sera un panneau solaire, mais ce sera un kit fondu. Donc voilà, avis aux amateurs. Pourtant, il ne doit pas être compliqué à retrouver ce panneau. Hein. J'imagine, hein, quand même. Hein. Et puis peut-être qu'il va être brocanté, on ne sait pas. Hein.
Thank you.
superbe morceau.
Eh oui, un petit Queen, ça c'était spécial dédicace pour Jacques, qui est un grand fan de Queen, entre autres.
Toute ma jeunesse, comme beaucoup. Hein.
Oui, alors là, autour
ça commence
table,
à dater.
Ça commence à dater, effectivement. Mais c'est que du bonus.
Ah, ça c'est clair, tout à fait. Il paraît que plus les années passent, on est comme le bon vin, on se bonifie.
On n'arrêtera pas de le dire.
Oui, il paraît.
Il faut y croire, surtout.
Jacques, là, on a juste... est-ce que tu nous as vraiment expliqué la différence entre brocante et puis marché aux puces? Ou bien on
non,
sait...
il y a encore marché aux puces, en plus.
Ouais, mais ça, c'est autre chose. Voilà, il y a vide-grenier.
Ouais, alors
il y a marché aux puces, vide-grenier. Il y a brocante, il y a antiquaire. Voilà, ça, c'est des termes... Voilà, mais plutôt la différence entre un marché aux puces et puis une brocante, quoi.
Alors, justement, là, on revient avec les puces. Hein. Vous avez les puces du design à Genève qui est du très, très haut de gamme. C'est aussi un terme générique, les puces, qui peut regrouper les brocantes. Donc, je pense qu'en Suisse, on va rester entre la différence entre vide-grenier et brocante. Comme je l'ai expliqué avant, le vide-grenier sera plutôt des objets contemporains que vous avez chez vous. Mm-hmm. La brocante, il y a un aspect dont je me dois de parler, c'est que en grande majorité, les brocanteurs ont fait beaucoup de kilomètres pour trouver leur objet. Ils ont eu des heures de travail sur cet objet, de rénovation, de remise en état. Et quand ils viennent sur une brocante, ils payent leur stand mm-hmm. au mètre carré. Mm-hmm. Et ce n'est pas les tarifs du vide-grenier. Donc, je le sais en tant qu'organisateur. Donc, on a un état d'esprit commercial, bien sûr, il ne faut pas se le cacher. Mais... Ou le brocanteur, il ne faut pas croire que s'il vous vend un meuble à 500 francs ou à 3000 francs, il aura 500 francs ou 3000 francs dans sa poche. Non, parce qu'il aura parcouru souvent des centaines de kilomètres, des heures de travail à l'atelier, et il aura une marge qui souvent, je peux vous dire, est très faible. Donc, négocier, quand on va négocier mmh. sur une brocante, on peut le faire, mais en sachant... qui a eu du travail derrière, donc avec respect mmh, pour mmh. l'objet et respect pour le marchand. Je crois, comme le disait Michael tout à l'heure, pendant le beau morceau de Queen, le vieux brocanteur est en voie de disparition, dans le sens, le gars qui était bougon dans son coin et tout, on arrive avec une nouvelle génération de brocanteurs maintenant, qui est un peu plus moderne et qui travaille ses objets. Donc, il y a ce renouveau et c'est un commerçant comme un autre et il y a beaucoup de travail en amont.
Jacques, tu parles de faire des kilomètres pour acquérir une pièce ou pour aller chercher un objet. Est-ce qu'il y a dans ton chez toi ou est-ce que tu es attaché à des pièces en particulier que tu n'arriveras peut-être jamais à vendre ou à remettre sur le marché parce qu'il y a une... Il représente quelque chose pour toi d'important.
Alors, excellente question. J'ai dû apprendre à me détacher de mes objets favoris. Là, j'ai un bon pote brocanteur qui m'a appris mon métier là, ces 15 dernières années, qui m'a appris à me détacher des objets. C'est important mm-hmm. pour l'achat aussi. Si vous achetez un objet sur un coup de cœur, vous allez le payer beaucoup trop cher, donc vous n'arriverez pas à le revendre après. Donc, je dirais les seuls objets dont je ne me détacherai pas, c'est ceux qui sont en relation tout simplement avec, avec mes enfants. Mm-hmm. J'ai par exemple un vieux en fonte, un vieux panneau de la SNCF, donc des chemins de fer français, avec la date de naissance de ma fille. C'était un numéro de voie.
Ouais,
en fait, celui-là, ben voilà, je l'ai acheté. Il est chez moi. Il sera à Pauline plus tard. Donc okay. ça, je ne vais pas vendre. Mais autrement, non, tout est à vendre.
OK.
Et puis, Jacques, là, tu parlais de brocante et tout. Puis, tu as parlé en tant qu'organisateur. Donc, on a bien compris, tu as un chineur fou. Tu fais des milliers de kilomètres. Tu n'as pas peur de rouler. Tu as un joli magasin. Mémoire d'une malle à Arnay-sur-Orbe. Et puis, organisateur, tu organises des brocantes voilà. J'aimerais bien juste savoir un petit peu, ça me titille. Vas-y, parle-en-nous.
Voilà, alors un autre aspect qui fait que mes journées manquent d'heures, c'est que j'ai commencé comme marchand, hein, d'abord amateur. Et un jour, j'ai appris que la brocante de Lutry était à remettre parce que l'organisateur ne voulait plus la faire. Et c'est une superbe brocante qui a lieu sur des quais magnifiques. Et personne ne voulait la reprendre. Il y avait un investissement de base à faire qui était assez conséquent. Et OK, j'ai dit, je la reprends. J'ai le trouillomètre à zéro, la première édition. Je ne peux pas vous dire comment, parce que les autres marchands ne me connaissaient encore pas trop. Et voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, je crois cette année, ça va être la huitième fois que je l'organise.
Ok, la huitième.
C'est une brocante de taille moyenne. On arrive entre 65 et 75 stands tout au long du quai Gustave Doré à Lutry. Et après.
Au bord du lac, alors.
Au bord du lac, ouais.
C'est magnifique.
Alors j'y étais, donc.
Ouais, le cadre est magnifique, ouais, tout
ouais,
à fait.
C'est ouais. Vraiment magnifique.
Et à partir de là, il y a un autre virus qui vient. C'est le virus de l'événementiel. Les autorités ont bien collaboré avec moi. On a vraiment une bonne ambiance, un bon contact pour animer Lutry aussi. Après, il ne faut pas oublier que si vous organisez une brocante, c'est tous les commerces du village ou de la ville qui en profitent aussi, les restaurants en premier.
Bien sûr.
Donc, après Lutry, 2 ans après, il y a eu la brocante de Rive à Nyon, à fin août, qui est différente des puces de Nyon qui ont lieu 11 mois sur 12, sauf en août, le dernier dimanche de chaque mois, qui était à reprendre aussi. Et là, j'ai repris aussi. Ça s'est également bien passé. Et de là, ça s'enchaîne après. Il y a la célèbre, la plus belle, c'est une brocante d'anthologie, la brocante de la Gruyère à Bulle, qui a eu lieu il y a 10 jours maintenant, dont le Fernand Plumetta, le légendaire organisateur, est décédé en 2020 ou 2021. C'était pendant le Covid.
2021, je crois, si ma mémoire est bonne. Ouais.
Et là, ben voilà, cette brocante, je me suis dit, voilà, Fernand est décédé. La plus belle brocante de couverte de Suisse, il faut qu'elle perdure.
Bien sûr.
Là, c'est moi-même qui ai pris contact avec Espace Gruyère pour savoir ce qu'il allait advenir de cette brocante. Alors, il fallait laisser un peu passer de temps pour que la succession se fasse comme toute succession de Fernand. Et j'ai découvert là-bas, j'ai pu obtenir le mandat de responsable des marchands pour cette brocante. Et on a eu la chance ou la malchance de faire un essai à blanc en 2022, puisqu'on a dû l'annuler 3 semaines avant sa tenue à cause du Covid. Mais ça nous a permis cette année de faire une organisation superbe, 260 stands, 8000 m², 18000 visiteurs. Et là encore, c'est une organisation superbe au niveau humain. J'ai découvert une équipe d'Espace Gruyère, parce que vous organisez ça, c'est des centaines d'heures de travail par personne. Donc, il y a le chef de projet, Michael Croza, et moi qui travaillons depuis le mois d'août pour tout ce qui est administratif de mettre en place. Et après, on est une bonne douzaine sur les 3 jours pour faire fonctionner cette brocante. Et j'ai découvert une équipe qui a les pieds sur terre, qui est fonctionnelle. Tout le monde met la main à la tâche. Il y a personne qui est
qui traîne en arrière, qui est
un grade supérieur ou autre. Quand il y a un problème qui survient, j'ai dit, c'était une équipe couteau suisse. Il y avait toujours une solution qui venait. Des fois, de personnes inattendues, mais absolument géniale.
Alors, je m'excuse, Jacques, de couper la parole. C'est vrai que moi, je l'ai faite en tant que brocanteur. Et puis, je peux vous dire que j'ai vu cette équipe d'Espace Gruyère à l'œuvre et tout. Et j'ai même vu un gars comme Jacques décharger des camions. Donc, ce qu'il vous dit là, la main à la pâte, Puis alors, Jacques, c'est vraiment le mec. Vous pouvez lui téléphoner 2 minutes après, disponible et tout. Il n'y a pas eu de cri et tout. Vraiment, une magnifique brocante sur 3 jours. Et je te laisse continuer, Jacques. Vas-y.
J'ai bientôt fini, rassurez-vous.
Et puis, moi, je commence à comprendre. Là, ça commence vraiment à entrer qu'il y a les 72 heures dans la journée. Je commence à comprendre, là.
Oui. Et puis après, de fil en aiguille, toujours côté humain, le dernier bébé, c'est la brocante d'Orbe. Il y a eu des brocantes à Orbe. Il y a un magnifique vide-grenier qui se fait au Puisoir. Et la commune d'Orbe voulait animer son centre-ville. Mmh. Et m'a donné le mandat. On l'a fait l'année passée, en 2022, pour la première fois, la brocante d'Orbe. Cette année, ce sera le 24 et 25 juin. On reste dans des dimensions humaines de stands. On est environ à 45-50 stands. Deux brocantes. Et ça donne des, c'est ce que j'aime aussi, ça donne des relations. Vous côtoyez les autorités, vous côtoyez la municipalité, vous côtoyez la police, vous côtoyez les commerçants. Super important de collaborer avec les commerçants, parce qu'il faut qu'ils soient heureux qu'il y ait une manifestation qui se passe devant leur vitrine, hein, clairement. Donc c'est un ajout à mon travail de mémoire d'une malle qui est indéniable, le fait d'être côté organisateur, puisque je sais, en étant marchand, ce que les marchands ont besoin.
Donc à Orbe, t'es un poché, toi, quoi.
D'adoption, oui, d'adoption. Parce
t'es
que,
pas un urbigène.
Moi, j'ai l'impression qu'il est partout chez lui.
Ah, mais Jacques, c'est le vrai couteau suisse. Je peux te dire. Et puis, j'ai eu aussi le plaisir l'année passée de faire celle à Jacques à Orbe. C'est un peu comme ça que j'ai découvert ce personnage. Et c'est vrai que ce qui dit Jacques entre le côté, l'aspect commune, autorité, commerce, participation, il faisait magnifique. C'est vrai que les gens, là, vous voyez, j'ai fait aussi celle de Nyon l'année passée, pour pas toutes les citer. Vous sentez qu'il y a une communion, que les gens sont bien, Jacques vous accueille, ça fait marcher les commerces. Franchement, c'est pas uniquement cet aspect financier que le brocanteur a, c'est aussi l'aspect donner du plaisir, de la joie, et puis vraiment du bon temps aux gens, quoi.
Et puis je crois que ça fait énormément les gens. En tout cas, le peu de fois où on voit une affiche de brocante, on sait, on les connaît à l'avance, hein, c'est bien planifié. Mais il y a de toute façon toujours un désir d'aller fouiner, d'aller regarder, de trouver l'objet, tout. Donc c'est assez fédéral.
Ouais, puis moi je pense qu'il ne faut pas partir avec cet esprit non plus négatif que le brocanteur, c'est juste un arnaqueur qui va vous piquer du pognon. Comme Jacques disait, il y a des heures et des heures et énormément de travail derrière un objet, les kilomètres, vous imaginez pas. Après, la brocante, c'est un jeu, donc il faut vous prêter au jeu. T'es pas d'accord, Jacques ?
Oui, absolument, absolument. Pour moi, une brocante réussie, ça c'est personnel à moi, mais une brocante réussie, c'est une journée où la famille se déplace avec l'adolescent, les parents, les grands-parents, et qu'à la fin de la journée ou de la demi-journée, tout le monde y a trouvé son compte. Tout le monde y a trouvé son petit objet ou grand objet. Et je crois que c'est générationnel, ça peut faire apprendre des choses. Et même la nouvelle génération, donc les ados de 15 ans maintenant, ou voire plus de 20 ans, découvrent des objets qu'ils n'ont jamais connus. L'exemple le plus simplissime, c'est le téléphone. J'ai vu des jeunes, le cadran, le cadran rond, comme on l'a tous connu, hein. Voilà, comment ça marche cette bête-là? Et puis, on parle où? Donc, c'est très basique, c'est tout à fait ça. Donc, il y a un côté culturel. Je pense que les brocantes qui se passent, l'Utri, par exemple, on est vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, je verrai d'un très bon œil que des classes se déplacent, que des profs ou des maîtresses prennent leur classe et fassent un tour des stands. Il y a un certain côté didactique, clairement.
Alors moi, j'invite toutes les classes là, de Sainte-Croix, là, si vous nous écoutez là, en direction, ça c'est une bonne thématique de course d'école. Et puis la brocante de Lutry, comme Jacques l'a dit, c'est au mois de juin, donc on est pendant les courses d'école. Donc elle se déroule le 9, 10 et 11, donc vous avez le vendredi 9, donc c'est une bonne thématique pour aller faire un tour. Et puis voir tous ces objets et tout, je pense que ça serait une bonne idée, quoi. Une bonne idée. Et puis Jacques, dans toutes ces brocantes que tu organises, donc tu nous les as toutes citées, donc Bulle, Lutry, Orbe et Nyon, est-ce que tu as une brocante de préférence ou bien pour toi elles ont toutes une importance les unes autant que les autres?
Alors, sincèrement, non, elles ont toutes la même importance. C'est vrai que de cœur, le premier bébé, c'est Lutry. Mm-hmm. C'est là que j'ai le plus sué, c'est là que j'ai le plus appris. Et puis, non, elles sont toutes différentes. Nyon, ça partait c'était la plus ancienne, 40 ans organisée par des antiquaires avant.
La famille Paltani, c'est juste, voilà. La mémoire est bonne.
De les Paltani.
Voilà, ouais. Bon, je ne voulais pas faire un peu de pub, mais ils n'ont plus de magasin, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout à fait, quartier de Rives, c'est toute une époque parce que j'y ai travaillé 10 ans pour cette ville, donc je me suis investi 10 ans, voilà.
Ouais, et Orbe, c'est ma petite dernière. Et quand je vois l'enthousiasme des autorités urbigènes pour animer leur centre-ville, pour donner le feu vert à cette brocante, c'est quelque chose. Chaque brocante a ses attraits et j'aime mes quatre bébés. Après, c'est vrai qu'il faut de la résilience, comme dans tout ce que vous faites, parce que dans tout ce que vous faites, vous serez critiqué d'une partie et félicité de l'autre. Donc c'est voilà, même pour vendre des meubles, pour créer des meubles, il faut de la résilience. Et on parlait un peu vélo au début. Voilà, si vous gagnez une fois la victoire, moi j'ai toujours cette image de la victoire ou la vente d'un objet. C'est comme je vais faire un peu de philosophie là, mais c'est comme l'aile d'un ange qui vous touche. Et donc, vous êtes au sommet pendant quelques secondes, quelques minutes, une journée maximum. Et le lendemain, il faut recommencer. Le lendemain, il faut se remettre au boulot. Parce que si votre brocante a bien marché, ça ne veut pas dire que la suivante va bien fonctionner. Si vous avez vendu ce meuble, ça ne veut pas dire que demain, vous vendrez le meuble avec la même facilité. Et je découvre ça on parlait de Gasca. Cette résilience qu'ont Magali et Gauthier aussi pour leur création, pour faire leurs meubles, c'est profondément humain d'organiser ou d'être marchand.
Merci. Ouais.
Et pour avoir été jeté un petit coup d'œil sur le site de Gasca, alors effectivement, c'est quand même des œuvres d'art, hein, carrément.
Ouais, oui.
Et puis il y a de la marqueterie, et puis visiblement, en tout cas à première vue comme ça, c'est vraiment des objets qui sont assez superbes. Hein.
Alors, pour les avoir vus de près et touchés, je peux te dire que c'est du level haut niveau. Ouais.
Et puis, en même temps, je peux tout à fait imaginer ce genre de meuble dans un style tout à fait contemporain, comme dans un style tout à fait...
Ça se marie très bien, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Le mariage, justement, design d'époque et design métal et tout, des fois, ça a un côté sympathique, hein, Jacques. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, alors on voit des quand on va livrer chez le client, hein, on voit des pas des musées, mais des gens qui ont un goût de décoration absolument extraordinaire. Et allier le vieux et le design industriel, c'est quelque chose qui est très tendance.
Si absolument.
On peut encore parler ouais. Tendance. Même dans les industries, vous arrivez maintenant dans certaines entrées de PME ou de multinationales où vous avez du vieux avec du moderne, de l'industriel. Donc, il y a beaucoup de choses à faire.
Et puis, Jacques, est-ce qu'on peut, sur toutes ces brocantes, est-ce qu'on peut te retrouver sur un site? Est-ce que tu as quelque chose propre à ton nom, à une association, ou je ne sais pas comment tu procèdes en général? Je ne sais pas si c'est facile de te retrouver, parce que les gens, nous, brocanteurs, on connaît, on a le guide Rousseau, hein, c'est le petit guide pour les brocantes et tout, de Suisse et de France. Donc ça, il vous est vendu, mais vous pouvez le trouver sur les brocantes. Autrement, il y a des sites internet. Mais comment on fait pour te retrouver, toi?
Alors, pour côté Arnay-sur-Orbe, donc Mémoire d'une Malle, il y a www.mémoiredunemalle.ch ou www.mdum.ch. Concernant les organisations, voilà, j'avais un, que ce soit sur Insta, quoi, les réseaux sociaux, j'avais une page dévolue pour chaque brocante. 7 ou 9, ça va venir d'ici, je pense, un petit mois. Je vais tout réunir ça sous www.suissebrocante.org, Suisse étant écrit S-W-I-2-S, donc www.suissebrocante.org. Et là, vous pourrez trouver toutes mes organisations, mais pas que. Parce que je ne suis pas le seul à faire le beau temps de la brocante en Suisse romande, hein, il faut être clair. Y a un autre gros organisateur qui est Dakota Events, qui fait du très 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 bon boulot, qui fait notamment aussi des bourses au vinyle ou à la BD ou aux jouets anciens. Et je vois dans le futur, donc sur Insta par exemple, www.suissebrocante.org, on parlera de toutes ces brocantes, un peu comme le guide Rousseau, mais sur les réseaux sociaux et non pas que sur papier. Donc, notez bien ça et d'ici un mois, je pense que tout sera prêt pour suivre, je vais le dire encore une troisième fois, www.suisbrocante.org.
Ben c'est très bien, comme ça au moins ça nous donne un petit fil conducteur à tout ce qu'on vient de causer. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvaine ?
Ah ouais, moi je pense que j'ai appris beaucoup de choses ce matin.
Ouais, puis attends, parce que je pense qu'il n'a pas fini. Non, mais est-ce ça, que, c'est... qu'est-ce qu'on fait ? On s'écoute encore un petit vinyle ou
oui,
bien...
tu peux programmer un vinyle, absolument.
Alors je vais me lever, je vais essayer de vous programmer une petite, puis on retrouvera Jacques pour la fin de l'émission.
De toute façon, on est bien d'accord qu'il nous faudrait de nouveau une émission qui dure au minimum 2 heures.
72 heures, comme Jacques l'a dit, mais on n'a
pas
assez.
Pas osé,
après, ils ne vont pas être contents, les autres.
J'ai pas osé.
Non, puis après... L'atelier m'attend, donc...
Oui, alors ça, c'est voilà. Le problème, c'est qu'il va falloir après se justifier de dire pourquoi il y a eu 72 heures de vide à l'atelier. Moi, j'aime beaucoup les affiches, Jacques.
Merci, oui, je collabore avec une graphiste qui est assez exceptionnelle, qui vient de Nyon. Et voilà, c'est là aussi, ça fait partie de mes petits dadas, que j'aime bien le graphisme, je ne sais pas le faire, donc je préfère déléguer.
Alors, il y a un petit côté rétro qui me séduit alors complètement. Alors là, on va garder ces affiches et puis si tu nous les offres, on les posera ici. Et puis, qu'est-ce qui nous a dégoté, Michael, pour la suite du programme musical ? Get back.
wasn't the right.
Et voilà, c'était un petit Monet de Pink Floyd, groupe aussi assez fétiche de Jacques. Enfin, on est tous des grands fans de Pink Floyd. Moi, le premier.
Moi, la troisième autour de cette table.
Voilà, bah voilà, exactement.
J'enchaîne tout de suite.
Vas-y,
pour ne pas oublier qu'on est toujours à la recherche de notre panneau de 3,50 m sur 1,25 m, bleu de 40 kg environ. Et puis vraiment, on est inquiets là, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, donc franchement, si vous le croisez, hein, pensez à nous, Radio Carnaval.
Ouais,
merci.
Puis pas le vendre sur une brocante, hein.
Surtout pas. On va gentiment poursuivre avec Jacques. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais on a un sujet à développer. Un petit sujet, grand sujet plutôt, mais on a peu de temps. Et donc Jacques, tu aimerais un petit peu partager quelle est ta philosophie, en tout cas une petite part de ta philosophie, la façon dont tu vois la vie et ton entrepreneuriat.
Voilà. C'est vraiment une guise de conclusion, ce serait pas mal. J'ai eu la chance de vivre de mon sport donc, il y a fort longtemps. Ça donne une grande liberté. Et cette liberté donne des grandes responsabilités aussi. Il n'y a personne le matin qui t'oblige à te sortir du lit. Tu dois te sortir toi-même. Et donc, si tu aimes ce que tu fais, ce n'est pas un problème. Ça le fait. Et après, j'ai fait 30 ans de salariat et des événements de vie font que tu as envie de redevenir, ou là, je ne sais pas. La sagesse. Je ne sais pas si c'était très sage, non. Mais non, la retraite n'est pas une ligne d'arrivée. J'ai toujours tendance à dire ça aussi, que 65 ans, ce n'est pas une ligne d'arrivée. La vie se poursuit après. Et là, j'ai re-signé pour beaucoup d'années parce que... Dans 10 ans, dans 9 ans, mes 65 ans, je pense que le virus de la brocante sera encore là. Donc oui, entreprendre pour être libre et après pour être libre de prendre ses propres décisions. Mm-hmm. Et ça vient aussi de savoir s'inspirer des gens qu'on voit autour de nous. Quand j'étais cycliste, j'ai beaucoup appris en regardant les autres aussi. Pas les copier parce que vous devez faire ça à votre sauce après. Mm-hmm. Comme quand vous êtes commercial, j'étais commercial pendant 18 ans dans le pharma. Une parole sera bonne chez un collègue et sera pas bonne dans votre bouche, donc il faut savoir s'inspirer des autres et mettre à sa sauce.
Mm-hmm,
donc il y avait des grands coureurs que, style Laurent Dufault, Pascal Richard qui est un régional en fait. Savoir s'inspirer de leur qualité, savoir s'inspirer de leurs défauts aussi et mettre ça à ma sauce. Et ça, j'ai toujours su le faire, et c'est ce que je fais maintenant en tant qu'indépendant aussi. Sans connaître les gens, vous pouvez vous inspirer des histoires aussi. Ici à Sainte-Croix, vous avez Raphaël Mettler, par exemple, qui est un bon exemple de je ne sais pas s'il est vraiment autodidacte, mais de gars qui a la niaque, en fait. Il crée sa société, il en prend soin. Précurseur et après, à un moment donné, quand vous voyez qu'il n'y a plus de liberté ou qu'il y a quelque chose qui est atteint, on passe à autre chose.
Mm-hmm.
Et moi, c'est ce sentiment-là que je voulais obtenir en revenant, en sortant du salariat pour retrouver ma liberté que j'avais en tant que sportif d'élite. Et ben voilà, je l'ai à 200%. Et c'est quelque chose dans une vie qui j'ai l'impression qu'il faut faire pour ne pas avoir de regrets. Parce que ce n'est pas, encore un peu de philosophie, mais
oui.
Ce n'est pas à 75 ans ou à 8 ans. On vit bien maintenant et assez âgé, mais ce n'est pas là qu'on aura la force de le faire. Donc il y a des risques. Il y a des risques financiers, il y a des risques humains. Mais pour moi, c'est la grosse liberté que j'aurais pris dans ma vie et j'en suis super heureux.
Magnifique, magnifique.
En tout cas, merci infiniment pour ce discours inspirant aussi.
Ouais, alors c'est plus qu'inspirant. Alors il nous reste une petite minute. Alors Jacques, je te remercie infiniment d'être monté dans ma montagne
merci
pour cette radio. Franchement, c'était un honneur et un plaisir de t'avoir. Alors j'espère que tu trouveras pas mal de monde, qu'on aura mis le virus de la brocante, hein, Sylvaine.
Oui, bah, ça va continuer chez moi.
Voilà, ouais, chez moi aussi, ça va continuer sur les stands et tout ça. Et je vous invite, je voudrais remercier mon parrain qui est le karting de Viteboeuf, infiniment. Et on va céder la place à Emiliano pour son émission Ubuntu Classique. Emiliano, il va nous faire vibrer avec des chansons. Il m'a fait découvrir un truc là, l'autre jour.